Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, aujourd'hui 22 février, commence le carnaval de Venise. Le carnaval qu'on est convenu de voir accablé par un tourisme écrasant tel qu'il a été repris pour une renaissance qui remonte à 1980. De bons auteurs disent leur chagrin devant ce qu'ils voient comme une copie dégradée de fastes enfuis. Tel Philippe Solers, écrivant dans son dictionnaire amoureux de Venise, rien de plus faux, parodique et grimaçant que le carnaval moderne. C'est un truc d'écran pour couturiers et sponsors divers, du bruit, de la laideur, de l'outrance, des masques empilés sur des masques, des contorsions pour la caméra. J'aime Venise, pas sa caricature. Fin de citation. Caricature peut-être, mais à laquelle on se doit au moins de concéder qu'elle témoigne pour la très longue et passionnante histoire d'un phénomène artistique, social et en définitive politique. Et lorsqu'on restitue à celui-ci sa profondeur temporelle, on découvre sa grande complexité, telle qu'elle s'est définie, déployée, d'âge en âge. On mesure combien réductrice est l'image d'un temps de simple transgression, au service des plaisirs les plus dévergondés, derrière le confort de masques complices. En un temps, le nôtre, qui a vu les controverses que l'on sait sur le port de la burqa, dissimulant complètement le visage et le corps des femmes qui le portent, s'accentue l'intérêt pour ces masques qui cachent les identités personnelles. Mais à quel point et au service de quelles relations sociales? Cette interrogation est au cœur des travaux de mon invité, Gilles Bertrand, professeur d'histoire moderne à l'Université Pierre Mendès-France de Grenoble, à qui l'on doit une récente et très neuve histoire du carnaval de Venise. Il va nous guider ce matin parmi les tours et les détours d'une très longue aventure multiforme, entraînante, coruscante.
À Venise, ville exquise, j'arrivais pour le carnaval. À l'auberge de la berge, je laissais dormir mon cheval. Et fantasque comme un masque, je courus droit au corso, en chantant dans la bourrasque ce refrain de Caruso. Quand j'étais jeune en dette, en dentelle, en bonnet pétard, je passais pour voir ma belle à travers cheminées et placards. Dans la rue, la cohue, une belle signorina me fait signe qu'elle est digne d'entrer dans la danse avec moi. Je l'emporte à demi-morte, elle tombe dans mes bras. Mais sa mère, en colère, nous menace et crie là-bas. Ramenez-moi donc ma fille, cavalier, chevalier du guet. Je suis vieille, sans famille, je suis veuve, je suis fatiguée. La bonne vieille, tout en larmes, va se plaindre au carabinier. Elle explique à des gendarmes que sa fille est partie à pied. Mais hélas, ce sont des masques en gendarmes déguisés. Sur le char de la tarasque, ils ne pensent qu'à s'amuser. Ils l'entraînent dans leur ronde, lui rabattent les jupes sur le nez. Ils lui disent qu'elle n'est pas blonde et font mine de l'assassiner. Une danse, ça commence, on ne sait pas non quand c'est fini. Une telle tarentelle peut durer l'ami de la nuit. Surtout quand une poursuite se transforme en farandole et qu'il faut quitter de suite le corso pour la gondole. Le grand canal en fête nous incite à nous espolir. À présent, baissons la tête, attention, c'est le pont du soupir. La nuit passe, on s'embrasse, on est seul sur un banc de parc. Aux merveilles, sans ta vieille, je suis plus heureux que Saint-Marc. Mais que dis-je, quel prodige, nous voilà vite cernés. Et des doges nous délogent en criant « Venez, venez, le bonheur est de tout âge. Mes amis, nous vous invitons, venez voir le beau mariage d'une vieille et d'un pierrot fripon. » Prends ma fille, elle est gentille, dit la vieille, regarde-moi. Je suis folle, je convole, oui, j'épouse un masque de joie. Mais le ciel s'est fait tout rose, je me sens décontenancé. Je ne voulais pas tant de choses, juste un petit peu m'amuser. J'embrasse la fille en larmes, elle me dit je m'appelle Sido. Je serre la main des gendarmes, bien le bonjour, je m'en vais au dodo. De Venise, ville exquise, j'ai gardé le doux souvenir d'une belle ribambelle, d'Arles XV et de grand vizir, d'un baiser de tourterelle dans la folie du corso, et aussi de la tarentelle que chantait le grand Caruso. Énorme et fantastique dans les noces et les banquets, au dessert apoplectique et des pieds trempants dans les baquets. Quand j'étais jeune en dette, en dentelle, en bonnet pétard, je passais pour voir ma belle à travers cheminée et placards.
Gilles Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre une chanson de Charles Trenet qui remonte à 1965 et qui s'appelle « La tarentelle de Caruso ». J'ai eu le goût de vous la faire entendre parce qu'elle est d'abord, comme vous avez pu juger, très, très entraînante et très agréable à écouter, mais aussi parce qu'au fond, elle incarne assez bien le mythe de Venise, avec une sorte de synthèse entre des composantes très diverses. Évidemment, on a le pont des soupirs, on a le grand canal, on a les doges, mais il y a aussi beaucoup d'autres emprunts à divers aspects de la vie italienne.
Et oui, c'est ce qui me frappe effectivement dans cette chanson, c'est cette sorte de mixture qui montre la force captatrice du mythe de Venise. Puisque le corso, qui n'est pas une réalité à Venise, on a le grand canal éventuellement, on a la tarentelle, la farandole, dont Venise n'est absolument pas le lieu d'expression, qui est plutôt une vocation de la Provence ou du sud de l'Italie, des Pouilles, où se trouve Tarente. Et par conséquent, on voit bien comment Trenet, à un moment où le carnaval de Venise n'existait plus dans les rues, les années 60, il n'y avait plus de carnaval, réinvente ce carnaval, comme beaucoup l'ont fait depuis le 19e siècle, en développant un imaginaire qui, finalement, a pour but de créer du plaisir. Et je crois que c'est tout le sens de cette chanson de Trenet qui nous renvoie, finalement, à l'importance et à l'efficacité de ce mythe du carnaval. On pourrait le faire remonter à la fin du XVIIe siècle ou au XVIIIe siècle, lorsque un certain nombre d'auteurs français, par exemple, à l'époque de Louis XIV, je pense à un certain Saint-Didier qui a écrit sur la République de Venise.
Vous l'exhumez de l'obscurité, ce Saint-Didier. Désormais, il sera fameux grâce à vous.
Mais il était fameux déjà grâce à Montesquieu, qui en était complètement inspiré quand il visita l'Italie et Venise, notamment dans les années 1720, à la fin des années 1720.
Montesquieu aussi a contribué hein, d'ailleurs à ce mythe. Vous avez réédité, je l'ai noté, les voyages de Montesquieu en Italie notamment.
Et oui, et Montesquieu, comme beaucoup de ses contemporains, n'était pas à Venise au moment du carnaval, mais ça ne l'empêchait pas d'en parler beaucoup.
C'est plus facile de servir un mythe quand on n'a pas vu la réalité.
Absolument. On peut dire que le mythe, finalement, s'est greffé sur toute une série de textes de personnes qui l'ont vu ou qui ne l'ont pas vu. Et puis, il s'est aussi fixé à partir de peintures, à partir d'images. Je pense à tous ces peintres qu'on voit même dans les publicités aujourd'hui. Pietro Longhi, par exemple. Toutes ces scènes du carnaval dans les rues, les tréteaux, les charlatans. Je pense à Tiepolo, surtout le fils de Gian Battista, qui s'appelait Gian Domenico, qui a beaucoup contribué dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle à produire une image. Ces images-là, que ce soit Longhi, que ce soit Tiepolo, ce sont aussi les images des vedutistes. On connaît Canaletto et Guardi, bien sûr. Ben, elles sont inlassablement répétées. Et le XIXe siècle, surtout dans sa deuxième moitié, après Théophile Gautier, apparaît les Goncourt.
Taine aussi,
et jusqu'à Henri de Régnier. On fait de Venise le lieu de ces peintres du XVIIIe qui parlaient du carnaval, à commencer par Pietro Longhi. Je crois que c'est celui qui a le plus émergé, finalement, et contribué au façonnement de ce mythe.
On doit d'ailleurs relever avec un peu d'irrévérence envers un grand historien tel que Fernand Braudel, mais c'est vous qui avez commencé à le taquiner, que lui-même paraît avoir, dans plusieurs écrits, entretenu le mythe de Venise. Il écrivait « Plus de règles, plus de hiérarchie, une égalité trompeuse mais libératrice tombe sur la ville. Tout est permis. Dans une sorte d'anonymat, chacun flotte sur sa vie. » Plus de contraintes, plus d'heures pour les repas, plus de distance sociale. Le masque est à lui seul une révolution, d'autant plus efficace qu'on la sait temporaire. Pour évoquer, avant de revenir à cette réalité telle que vous l'avez restituée dans vos travaux, écoutons un de ceux que vous avez cité comme constructeur du mythe, Théophile Gautier, dans ce fameux poème « Le Carnaval ». qui est lu ici par Sylvia Montfort pour France Culture, le 6 décembre 1971.
Venise pour le bal s'habille. De paillettes tout étoilées scintillent, fourmillent et babillent le carnaval bariolé. Arlequin, nègre par son masque, serpent par ses mille couleurs, rosse d'une note fantasque, Cassandre son souffre-douleur. Battant de l'aile avec sa manche comme un pingouin sur un écueil, le blanc Pierrot, par une blanche, passe la tête et cligne l'œil. Le docteur Bolognais rabâche avec la basse au son traîné. Polichinelle qui se fâche, se trouve une croche pour nez. Heurtant Trivelin qui se mouche avec un tri extravagant, à Colombine, Scaramouche rend son éventail ou son gant. Sur une cadence se glisse un domino ne laissant voir qu'un malin regard en coulisses aux paupières de satin noir. Ah, fine barbe de dentelle, que fait voler un souffle pur. Cet arpège m'a dit, c'est elle. Malgré tes réseaux, j'en suis sûr. Et j'ai reconnu rose et fraîche, sous l'affreux profil de carton, sa lèvre au fin duvet de pêche et la mouche de son menton.
Je suis frappé, Gilles Bertrand, par la profusion des couleurs dans ce poème de Théophile Gautier, alors qu'au fond, pendant très longtemps, le carnaval a été en noir et blanc.
Oui, il a été en noir et blanc au 18e en particulier, mais ce qui est frappant, c'est que Gautier écrit ce poème alors qu'il n'est pas encore allé à Venise, mais qu'il doit y aller. Donc il rêve une sorte de Venise qui est aux couleurs de ce qu'il attend, mais pas de ce qui a été.
Ça fait penser à ce que disait Clémenceau de Wilson, il plane au-dessus des faits qui ont l'inconvénient d'être. Au fond, Gautier plane au-dessus d'un Venise qui a la spécificité d'être.
Il plane sur les lagunes, il est porté aussi par une forme de rêverie romantique dont il oublie tout l'aspect noir, tout l'aspect obscur qui avait été au cœur d'une image des années 1820-1830. Et là, il y a une espèce d'enthousiasme vers un bonheur sans fin qu'on a retrouvé tout à l'heure chez Charles Trenet. On a cette espèce de continuité d'un mythe et Gautier, je pense, c'est très important.
Pas d'obscurité chez Trenet, pas d'obscurité chez Gautier. Est-ce qu'il y en avait un peu plus dans les lettres et les écrits de Georges Sand et Musset lorsqu'ils sont venus cacher à moitié leurs amours à Venise?
Voilà, oui, on est au début des années 1830 et Georges Sand, précisément, nous donne l'image d'un carnaval qui l'ennuie, d'un carnaval où il n'y a que de tristes masques qui défilent aux fenêtres du Danieli, où elle loge et où elle essaie de réorganiser sa vie après l'épisode de Musset, qui est à ce moment-là partie de Venise.
Voltaire disait déjà que c'était une nation composée de spectres.
Voilà, et donc on est dans cette même ligne chez Georges Sand, et on voit bien coexister dans le 19e siècle, à l'intérieur de ce mythe, un aspect plutôt négatif et repoussant et un aspect attirant.
Remontons loin en arrière, un millénaire, rien que ça.
Je crois qu'il faut aller au moins jusqu'au 11e siècle, mais comme pour tout phénomène de longue durée, on ne sait jamais quand il commence. Alors bien sûr, on a un texte en 1094, à la fin du 11e siècle, un édit du Doge qui autorise la population de Venise à vivre le carnaval.
C'est un point de départ, non ?
Alors c'est un point de départ. C'est un point de départ commode et surtout, on ne sait rien de ce qui s'est passé avant. On sait que ce carnaval, dès le départ, il a une fonction politique, puisque en fait Venise est constituée de quartiers qu'on appelle les contrade, et ces quartiers ont une forte identité les uns par rapport aux autres. Et dès le 12e, 13e siècle, il y a une fête qui s'appelle la fête des 12 Maries qui se déroule précisément le jour de la purification de la Vierge, le 2 février à la Chandeleur.
Pourquoi 12 Maries?
Alors les 12 Maries, c'est parce que la fête se réfère à 12 femmes qui étaient l'objet d'une dot de la part du Doge, parce que c'était des femmes pauvres et la communauté vénitienne leur permettait de vivre avec une certaine aisance. Donc elles étaient un petit peu le symbole de cette unité des riches qui donnent aux pauvres. C'est au moment de ce qui allait devenir le carnaval qu'on vénérait ces 12 vierges. Et cette fête, en fait, elle est supprimée à la fin du 14e siècle, à un moment où Venise est en guerre avec Gênes. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est de voir comment elle était une occasion de réjouissance, de libération des individus, de défilés sur les barques et de processions du Doge, de Saint-Mar à Santa Maria Formosa. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle est remplacée à la fin du XIVe siècle par une fête qui s'appelle celle du Jeudi Gras, c'est-à-dire du jeudi qui précède le Mardi Gras. Donc on est toujours au cœur du carnaval. Et cette fête du Jeudi Gras, elle a une fonction qui est celle d'unir les habitants de ces différentes contrades qui n'étaient pas vraiment unis par les 12 maris, parce que là, les contrades restaient très puissantes. Et le jeudi gras, en fait, s'est imposé, on pense, à partir de la fin du XIVe siècle, comme le moment d'agrégation qui permettait de célébrer avec force réjouissance, spectacle, pyramides humaines, chasse aux taureaux, de fêter finalement la domination de Venise sur des peuples voisins.
Il y a déjà à ce moment-là une double composante. Il y avait à l'époque des maris la préoccupation sociale, de solidarité sociale, et d'autre part, second pôle, la préoccupation, le souci d'afficher aux yeux du monde la puissance de Venise. C'est aussi la cérémonie des fameuses épousailles de la mer.
Exactement. On a, avec cette cérémonie qu'on appelait de la Cenza, c'est le mot italien pour désigner l'ascension au mois de mai, une fête mobile, donc il y avait lieu une date différente chaque année, on a l'occasion de célébrer par les épousailles du doge qui jette son anneau dans la mer au cœur d'une période de 15 jours de fête.
Avec des mots extraordinaires. Hein, il segno di vero e perpetue dominio, en signe de véritable et perpétuelle domination.
La domination, c'est celle sur la mer Adriatique, c'est celle qui est légitimée par le don que le pape a fait au doge de Venise pour lui donner sa pleine autonomie par rapport à l'empereur. Et donc, Venise célèbre ce moment politique en faisant l'occasion d'un second carnaval. C'est pour ça qu'on est avec cette fête des épousailles du doge avec la mère, dans un moment carnavalesque. Il y a une grande foire à laquelle se rendaient les pèlerins au Moyen-Âge, sur la route de Jérusalem, et les habitants se masquent à partir du moment où le masque devient, à l'époque moderne, une nécessité contrôlée, voulue par le pouvoir politique. Et donc, effectivement, on est là dans une signification très fortement politique, la communauté, non seulement se soude entre elles, mais se soude aussi face au reste du monde en montrant sa puissance.
L'apparition des masques, voilà un moment décisif. Auparavant, il y a du chahut, on jette des œufs par la fenêtre, il y a une sorte de tohu-bohu, on pourrait presque parler à manière française de charivari.
Les choses évoluent, en fait, on les connaît au Moyen-Âge par des édits. Ce sont surtout ces sources-là qui nous permettent de constater que les masques étaient très libres, très variés, souvent portés par des personnes qu'on imagine être plutôt du peuple, avec des jeux un peu violents. On peut penser au déguisement en homme sauvage, on peut penser aux prostituées qui allaient en masque dans les rues, on peut penser au fait que les masques se déployaient à partir du XIIIe siècle. On a de nombreuses indications. Et on voit même au XVe siècle se structurer une corporation des fabricants de masques, ce qui montre bien l'importance que le masque avait comme industrie.
Métier rémunérateur.
Voilà, puisqu'on avait une dizaine de boutiques. Bon, ce qui me semble quand même caractériser ce carnaval des premiers siècles sur lesquels on en a des informations, c'est une certaine rudesse, c'est une certaine violence. Moi, ça me paraît vraiment, vraiment important parce que cela renvoie aux difficultés de cette ville qui doit s'affirmer face au reste du monde dans un espace naturel difficile qui est la lagune, qui est un espace où les hommes doivent lutter, les hommes et les femmes, et où par conséquent on valorise les exercices militaires. Et le carnaval est l'occasion du déploiement de ces violences où les factions finalement s'habituent à lutter en commençant par lutter entre elles. C'était ce qu'on appelait les Castellani et les Nicolotti qui représentaient chacun trois des six quartiers de Venise. Aussi bien les luttes de poing qui avaient lieu, il est vrai, hors du temps de carnaval, hein, des combats sur les ponts entre ces factions, que les forces d'Hercule qui étaient des pyramides humaines qu'on dressait sur la piazzetta, à la petite place à côté de la place Saint-Marc, le jour justement du Jeudi Gras. On avait donc des éléments de rudesse et de violence dont le point culminant, je crois, étaient les fameuses chasses aux taureaux qu'il faut évoquer parce qu'elles contredisent une image, celle qu'on a pu évoquer en début de cette émission, cette image très douce, très, très festive, au sens de plaisir qui se fonde sur une harmonie entre les individus. Ben non, les chasses, elles étaient le moment d'expression de la cruauté. Et cette cruauté, elle s'appliquait contre les animaux. On utilisait des chiens pour mordre le cou de ces taureaux qui n'étaient en fait que des bœufs, déjà affaiblis quand on les jetait sur la place, sur les places, car à l'époque, il n'y avait pas que la place Saint-Marc. On les achevait en coupant leur tête une fois qu'ils vraiment ne pouvaient pas se défendre, donc rien à voir avec la corrida. Et cette expression de cruauté, elle a duré jusqu'en 1802, c'est-à-dire que même dans ces carnavals du XVIIe ou du XVIIIe siècle, la cruauté a perduré. Donc c'est un petit peu ce carnaval du Moyen-Âge que finalement les élites vénitiennes ont voulu maintenir afin que le peuple participe de la fête et ait aussi son contentement.
On laisse sa place à l'expression de cette violence avec l'idée, en même temps concomitante, de la contrôler.
Exactement, c'est bien ce but qui apparaît de plus en plus fortement au tournant du XVe siècle, lorsque Venise a réussi à l'emporter sur sa grande rivale qui était Gênes. Ça, c'est vraiment ce qui marque d'une certaine manière la fin du Moyen-Âge à Venise. Et à partir du XVe siècle, on a la possibilité de déployer le luxe, de faire la fête en célébrant les succès. Les succès qui sont politiques, qui sont diplomatiques, qui sont économiques. Venise est au cœur d'une économie monde.
Une ville monde.
Ville monde. On a bien des traces des richesses de l'Orient, de l'Occident, bientôt, pas encore tout à fait évidemment au XVe siècle, mais surtout de tout ce monde exotique.
Avec cet acmé que représente la victoire de Lépante, du doge d'Andolo sur les Turcs.
Il est vrai que cette victoire de Lépante, elle est située à un moment où Venise est en train de se heurter tout de même à des puissances comme celle de l'Empire ottoman.
Rappelez-nous la date.
1571. Face à l'Empire ottoman, mais aussi face à l'Espagne, Venise, malgré le succès de la victoire de Lépante, commence à ne plus être au premier plan. Mais alors là, après les grands fastes du XVe siècle, on entre dans une époque, le XVIe siècle, qui est l'époque moderne, où Venise apparaît plutôt en recul par rapport à sa grande position centrale, antérieure. Ce recul, eh bien, il va se traduire aussi dans une autre manière de faire le carnaval.
Donc l'horizon se rétrécit et on a encore plus besoin de fonctions libératrices. Vous parliez à l'instant de chien Gilles Bertrand. Je vais vous en faire entendre un, si je puis dire, qui restitue la permanence d'un certain nombre de divertissements populaires. C'est une interview d'Enrico Fulchignoni, l'homme de cinéma, dans l'émission Panorama de Jacques Duchâteau sur France Culture, le 15 février 1980. Vous allez voir le petit chien.
Enrico Fulchignoni, vous êtes donc à Venise pour le carnaval. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe.
Oui, tout ceci a commencé le mardi 12 février. Le rituel a commencé par une visite de Venise accomplie par le diable et son ange gardien. La visite s'est achevée hier sur la place Saint-Marc. Pendant trois jours, l'esprit du bien et celui du mal sont promenés par les calles, les places, les campielli, en exposant avec force arguments chacun ses raisons au peuple qui les entourait. Entre-temps, la ville de Saint-Marc est remplie de masques.
Mais alors, quels masques?
Pas de simples masques que tout le monde connaît, non, non. Des déguisements grandioses, baroques, cauchemardesques, tarabiscotés, absurdes, surréalistes, destinés à entourer une série de spectacles en provenance de toutes les parties du monde. Le masque qui m'a le plus frappé, c'était celle d'un Anglais qui tenait à l'est un fox terrier masqué en chien Saint-Bernard. Il tenait ce petit chien avec son collier de tibia, avec son collier comme ça, tout à fait changé, avec le petit tonneau plein de cognac destiné à sauver la vie aux victimes des avalanches. Mais ici, le cognac du faux chien de Saint-Bernard servait de temps en temps uniquement à désaltérer le cannibale anglais qui le tenait en l'est, et l'avalanche était une avalanche d'applaudissements du public médusé par ce double déguisement humain et zoologique.
C'était Michel Bidlowski qui interrogeait Enrico Fulchignoni. Je voudrais, Gilles Bertrand, que vous évoquiez maintenant la question de l'équilibre entre vie privée, si équilibre il y a, entre vie privée et espace public, car cet équilibre est un des aspects importants de ce carnaval de Venise dont nous parlons ce matin, à partir du XVIe siècle, quand se définit ce qu'on peut appeler un carnaval baroque.
Dans l'interview que nous venons d'entendre de Enrico Fulchignoni, il y a un mot qui m'a frappé, qui était celui de baroque. Et il parle de déguisements grandioses, il parle aussi d'une ville-monde cosmopolite. Venise, dans ce retour de 1980, lorsque le carnaval a été réinstallé, a beaucoup rêvé une forme de carnaval qui est moins celle du XVIIIe siècle, celle de Pietro Longhi, celle de Casanova, celle de Goldoni, qu'en réalité une ville des deux siècles qui ont précédé, c'est-à-dire du XVIe et du XVIIe siècle. Alors je pense que c'est un peu inconscient, c'est une forme de carnaval oublié qui est ainsi réveillé. Et je pars volontiers de cette idée du microcosme humain et zoologique qui est évoquée il y a un instant. Pour revenir à ce qui pouvait être vécu dans cette ville, vous parlez de la dimension de privatisation, de désir que chacun a de s'amuser à un moment qui est celui qui précède le carême et ses contraintes. Et puis, face à ce désir de plaisir qui s'exprime dans le vêtement, dans le luxe, qui s'exprime dans la volonté de jouer, de se retrouver dans des petits espaces, des casins, ça c'est plutôt au 17e, ou dans des cafés.
Casin, c'est le même mot que casino.
C'est le même mot, oui, c'est petits appartements dans lesquels on jouait, où on se retrouvait entre amis pour faire différentes choses, pas toujours facile à expliquer. Face à cette privatisation dont le carnaval est une occasion pour les plaisirs, eh bien, il y a une mise en avant de plaisirs publics, c'est-à-dire de fêtes qui sont organisées dès le XVe siècle, dans ce siècle qu'on a dit splendide et rayonnant pour Venise, mais qui se continue avec d'autant plus de magnificence au XVIe et au XVIIe siècle que Venise est en perte de vitesse sur la scène mondiale, du point de vue aussi bien économique que du point de vue diplomatique.
Compensation en somme ?
Une forme de compensation, je crois, sans aucun doute. N'oublions pas que le XVIe siècle, c'est le siècle où le mythe de Venise est le plus rayonnant. On pense aux peintres, bien sûr, on pense à Titien, on pense à Véronèse. Parallèlement à leurs œuvres tout à fait grandioses et qui célèbrent la ville de Venise comme une femme, déesse de l'Adriatique, eh bien, nous avons des festivités qui sont organisées, qui sont du type théâtral, qui sont des régates, qui sont des théâtres, des spectacles ou des bals sur l'eau, des théâtres flottants, des théâtres du monde. Et tout ce système scénique qui correspond très bien au qualificatif de baroque, eh bien, il est mis en place en fait par des jeunes gens au départ que la ville de Venise emploie de certaine manière. Ce sont ces jeunes gens qu'on appelait les membres des compagnies de la calza, de la chausse, parce qu'ils avaient des chausses colorées. Alors là, on retrouve Gautier, on retrouve Trenet.
La couleur.
La couleur, exactement. Il en avait à ce moment-là encore. Ces compagnies avaient pour mission, au moment du carnaval, d'organiser des spectacles publics. La République les rémunérait. Et parmi ces spectacles, le plus connu, c'était ces pantomimes faites de danse et de très peu de paroles, en fait, mais de mimes, qu'on appelait les momariés. Et ces momariés ont duré du milieu du 15e aux années 1560 comme un véritable signe du carnaval qu'on a un petit peu tendance à retrouver dans certaines des activités d'aujourd'hui au moment du carnaval.
Et la Commedia dell'arte joue un rôle important.
Alors, la Commedia dell'arte, elle apparaît après les momariés, elle apparaît plutôt dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et elle joue un rôle tout à fait important parce qu'elle fixe un certain nombre de costumes de déguisement dans le carnaval qui se déambulent dans les rues. On pense au personnage de Pulcinella, d'Arlequin. Ce sont ceux que je viens d'évoquer, des masques qui viennent d'autres villes d'Italie. Je pense à Pulcinella qui vient de Naples, Arlequin comme Brighella qui vient de Bergame. Et Venise n'est pas seulement le microcosme du monde, elle est aussi le microcosme de l'Italie, de ses richesses festives et théâtrales.
Oh, la belle, belle, belle canzonette. Carnaval n'aime pas les jaloux. Les plus sages aujourd'hui sont les fous. Oh, la belle, belle, belle canzonette. Tu me plais, je te plais, allons-y parmi les confettis, la vertu s'en ira. Oh, oh, oh. Fantenze, Puccinella, l'amour est par là. Oh, le plaisir est sans égal, c'est carnaval. Ce matin, le ciel semble poudré d'un rose léger, ça et là, c'est fardé. Le nouveau carnaval vénitien nous revient, ainsi qu'un joyeux magicien. Ragazzina, aux yeux si doux, prends garde de loup. Attention aux pizzicati d'être investis. Oh, la belle, belle canzonette. Carnaval n'aime pas les jaloux, les plus sages aujourd'hui sont les fous. Oh, la belle, belle canzonette. Tu me plais, je te plais, allons-y parmi les confettis, la vertu s'en ira. Oh, 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 oh. Fantenze, Puccinella, l'amour est par là. Oh, 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 oh. Le plaisir est sans égal, c'est comme un folle. Colombine a laissé son pierrot, mais des baisers nouveaux le consolent bientôt. Un gentil au noir et marlequin, mais le coquin suit une dame en palanquin. Un matamor avantageux roule des yeux pour un domino de satin aux pieds mutants. Oh, la belle, belle canzonette. Carnaval n'aime pas les jaloux, les plus sages aujourd'hui sont les fous. Oh, la belle, belle canzonette. Tu me plais, je te plais, allons-y parmi les confettis, la vertu s'en ira. Oh, 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 oh. Fantenze, Puccinella, l'amour est par là. Oh, 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 oh. Le plaisir est sans égal, c'est carnaval.
Alors, du côté de la mythologie un peu attrape-tout, Bella Canzonetta, interprétée par Marcel Mercès, c'est un extrait de l'opérette Les Amants de Venise, de Henri Varnal, parolier, et Vincent Scotto, le compositeur, une opérette de 1954. Alors justement, à ce propos de déguisement, les masques, à cette époque-là, contrôlés en fait plus ou moins efficacement par les classes privilégiées, par les nobles, ces masques prennent une importance essentielle. Je voudrais que nous y arrêtions un instant, si vous voulez bien, Gilles Bertrand. Il y a une grande diversité de masques. Alors certains s'inspirent des personnages de la Commedia dell'arte, mais il y en a d'autres qui figurent une sorte d'exagération qui déforme un état initial. C'est une deuxième catégorie.
Oui, alors là, la liberté de masque qui caractérise plutôt les siècles anciens, c'est-à-dire qui précèdent le XVIIIe siècle, on retrouve dans le carnaval d'aujourd'hui cette idée de folie, cette idée d'exagération. Elle est tout de même inscrite dans certaines limites. Je crois que la variété est sous contrôle de l'État. Nous sommes dans un carnaval qui ne cesse d'avoir, depuis les temps les plus anciens, hein, comme on l'a déjà dit, une fonction politique.
Et contrôle les masques, par exemple, parce que je vois qu'il y a aussi d'autres types de masques qui se fondent sur l'idée du changement d'État. L'homme devient un animal, des messieurs se transformant en femmes et des femmes portent une barbe postiche, ça annonce déjà les femmes à barbe d'aujourd'hui, combattantes valeureuses du féminisme.
Oui, mais tout au long des siècles, depuis le Moyen-Âge et à l'époque moderne, ne cessent de se multiplier les édits de la République contre l'usage de ces déguisements, de ces travestissements, de ces masques, contre les déguisements en femmes, d'hommes en femmes. On ne voit plus beaucoup de diables entre le XVIe et le XVIIIe siècle. On a, d'une certaine manière, un progressif acheminement vers un masque, qui est le masque du noble, qui est celui qu'on appelle la bahuta, c'est-à-dire la bahut, on l'appelait comme cela en traduisant en français.
B-A-U-T-A, oui.
Il s'agissait en fait d'un châle de dentelle très fine, porté sous un chapeau qu'on appelait le tricorne, donc chapeau à trois pointes, et surtout en accompagnement d'un masque blanc, un masque de céruse en général, qui était appelé le volto, le visage, le faux visage, le spectre, justement, dont parlait Voltaire, bien que lui non plus n'était jamais allé à Venise, ni au moment du carnaval, ni même pendant le reste de l'année, le tout avec un manteau. Et ce masque-là...
Tabarro, le manteau.
Le tabarro, exactement. Ce masque-là, il avait peut-être été une invention du XVIIe siècle. J'ai fait une recherche qui m'a amené à en individualiser dans les peintures, dans les gravures, la naissance. Alors le résultat, c'est que ce masque acquiert sa configuration à la fin du XVIIe siècle, au moment où le mythe est pris en charge par les étrangers de manière très très forte. Il apparaît en fait dans les tableaux d'un védoutiste, dont on parle beaucoup moins que de Canaletto ou de Guardi. Je pense que ce serait bien que les Français le connaissent davantage.
À partir d'aujourd'hui, c'est le cas.
Il s'appelle Carlevaris. Carlevaris, C-A-R-L-E-V-A-R-J-S. Et il est l'inventeur en image de cette bahuta des nobles. Mais alors, on peut remonter quand même un tout petit peu en avant, au milieu du XVIIe siècle. Et là, on voit, chez un peintre qui s'appelle Heinz, Joseph Heinz, des configurations de ce masque. On s'aperçoit aussi qu'à ce moment-là, il y a une académie qui est très importante à Venise, qui est créée en 1630, qui dure pendant 30 ans, qui s'appelle l'Académie des Inconnus, l'Academia degli Incogniti. Et cette académie, elle développe chez les élites une culture du masque, une culture de l'incognito. On y va en masque. Et je présume que c'est dans ces années-là, qui sont celles de Richelieu, de Louis XIII en France, que dans ces années-là, Venise cultive son art de la dissimulation, du secret, en développant l'art de se masquer chez les membres des élites, chez les nobles. Alors même qu'au peuple est réservée cette variété dont on parlait il y a un instant, cette exubérance. Ce masque des nobles, c'est un masque qui assume une fonction politique très forte.
Donc on ne cache pas en fait la situation sociale de celui qui le porte, ce masque.
Non, parce que ce châle de dentelle, la fameuse bahuta, c'est un châle qui peut coûter très cher. On le voit dans les listes de dot des femmes, on voit le prix que ça coûtait. Ça coûtait très cher. Même s'il y a dans les pièces de Goldoni certains personnages au milieu du XVIIIe siècle qui se revêtent de ce costume, ils le prennent dans l'armoire de leur patron. Donc c'est un costume en fait qui coûtait cher et qui par conséquent reste un instrument de distinction sociale. Mais il y a tout de même un complément qui est que ce costume, il peut être porté aussi par des non-nobles et qu'il est, au XVIIIe siècle, devenu un moyen pour les nobles pour que l'on ne voit pas trop le fait qu'ils étaient en nombre de plus en plus réduit. D'où ce paradoxe d'un masque qui a fini par devenir un uniforme visant à protéger une caste, le groupe des nobles vénitiens, alors même qu'on en attendrait plutôt et qu'aujourd'hui on imagine plutôt qu'il s'agissait d'un moyen de s'amuser.
Cette caste a eu à se protéger au cours des âges, à la fois contre le risque de seigneurie, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul, comme cela a menacé toutes les cités italiennes de ces siècles, et contre l'éventuelle émergence d'un pouvoir populaire.
Entre le populaire et le despote, il y a le souverain collectif. La République des masques, c'est bien à Venise, un régime qui se fonde sur l'idée qu'on a 1 000, 1 500 personnes qui gouvernent, et qui gouvernent sans montrer leur visage. C'est la République aux 1 000 lieues, comme l'Accademia degli Incogniti, dans le premier XVIIe siècle, l'avait inventée et publicisée. Donc nous avons ces yeux qui sont ceux de ces nobles masqués, ceux de leurs espions, qui contrôlent les comportements des individus.
Alors évidemment, Gilles Bertrand, il y a un personnage vers lequel on se porte toujours lorsqu'on veut restituer cette Venise du XVIIIe siècle, avec cette complexité que vous évoquez, complexité artistique, complexité sociale, complexité des plaisirs. Complexité religieuse, cet homme-là, c'est Giacomo Casanova. Voilà un extrait de ses mémoires, magnifiques mémoires.
Les religieuses, au moins celles appartenant à certains couvents, sont d'aimables libertines. Elles ne font rien de mal, mais au contraire, autant de bien qu'elles le peuvent. Je ne puis en dire que du bien. Car si elles n'observent pas très exactement le vœu de chasteté qu'on leur a fait faire, ce n'est pas leur faute, mais bien celle des personnes qui ont imaginé ce vœu insipide. C'est aussi la faute de leurs parents, qui les ont poussés à entrer au couvent, soit par force, soit par la ruse. Elles intriguent, mais presque toujours par amour. Elles sont tellement bonnes que celles qui ne sont plus en état d'avoir des amants s'entremettent volontiers en faveur de celles qui ont encore l'âge du plaisir. Elles sont donc toutes aimables, les unes d'une manière, les autres d'une autre. Dans les couvents les plus importants, il y a toujours des religieuses qui prennent la liberté de se masquer secrètement pour aller à l'opéra, à la comédie ou sur la place Saint-Marc pour retrouver leurs amoureux. Elles se contentent, pour y réussir, de gagner les bonnes grâces de la sœur Tourière, qui ne se risque pas d'ailleurs à refuser d'ouvrir à celles qui sont de haute naissance et qui ont des amis et des amoureux puissants.
Cet extrait des mémoires de Casanova est dû au Samedi de France Culture, une émission de Pierre Barbier qui remonte au 3 mai 1975. Il y a là en particulier, Gilles Bertrand, des éléments intéressants, je dirais même piquants, sur la situation des couvents. L'Église vénitienne a toujours souhaité affirmer en fait son autonomie par rapport au Vatican, non ?
Par rapport au pape, on a une affirmation qui ne cesse de se construire à partir tout de même d'une légitimation qui avait été apportée par le pape. N'oublions pas la fête des épousailles avec la mère dont on parlait tout à l'heure. Mais Venise est une république autonome dans un contexte politique italien de nombreuses dominations étrangères. Il y a un autre grand état qui est autonome, c'est celui du pape, et il y a une forme de rivalité qui s'instaure, comme du reste avec la Toscane. Au début du XVIIe siècle, c'est-à-dire au moment précisément où cette république des masques connaît son plus fort déploiement, la première moitié du XVIIe siècle, Venise a été en lutte ouverte avec le pape. Et donc, on peut déceler dans cette prise de distance à l'égard des règles morales, notamment édictées par l'Église, chez les classes dirigeantes vénitiennes, un véritable programme politique.
Il y a peut-être d'autres ressorts plus directement liés à un certain hédonisme, on peut se risquer à le dire.
On peut se risquer absolument, Casanova s'inscrit dans cette ligne-là. Mais Casanova, lorsqu'il parle des religieuses qui peuvent aller grâce au masque incognito hors de leur couvent, qui peuvent se rendre dans un petit appartement, en fait, il est à la fois un chantre des plaisirs, hédoniste, mais il est en même temps cet espion qu'il a été à un autre moment de sa vie que celui où il a écrit les mémoires, qui est attentif à faire que soit respecté scrupuleusement un certain ordre social dans la ville. Et donc, le masque dont les personnages de Casanova sont munis, qui leur permettent de bénéficier de l'incognito, sont en fait le moyen à travers lequel la République évite des désordres exposés au grand jour. Donc le libertinage, oui, faites ce qu'il vous plaît, comme le disait un voyageur français à la fin du XVIIe siècle, qui s'appelait Maximilien Misson, pourvu que vous ne touchiez pas à la politique et à la religion. Donc, livrez-vous à tous les plaisirs, mais ceux-ci ne doivent pas entraîner de désordre dans la ville. Donc, Casanova, c'est à la fois un homme de la liberté et c'est aussi un homme de la réglementation. Et ce masque des classe dirigeante vénitienne entre parfaitement dans cette logique. Je crois qu'on peut rappeler l'idée qu'il n'égalise pas les conditions. Tout au contraire, on peut revenir sur ce que nous disions de Fernand Braudel au début de l'émission. Ce masque...
Pour le contredire, hélas.
Je suis désolé, mais je pense que le cas vénitien s'oppose à beaucoup d'autres cas et que les barrières sociales ne sont nullement abolies par le masque. Au contraire, il sert à les renforcer dans la mesure où ceux qui s'en munissent savent reconnaître ceux qui les portent.
On sait aussi distinguer par exemple les étrangers et les Vénitiens.
Grâce à cette habitude du regard, les Vénitiens savent qui ils ont en face d'eux. Ce n'est qu'un incognito, ce n'est pas une absence d'identité. Ils peuvent faire comme si ne connaissaient pas la personne qu'ils rencontrent au coin de la rue. Et la topographie de la ville, évidemment, prête à cette nécessité qui est éprouvée pour conquérir un petit peu de liberté dans une ville qui sinon serait étouffante, puisqu'il faudrait sans arrêt saluer les personnes qu'on rencontre. Et puis, il y avait, de la part des Vénitiens, des petits signes minuscules à travers lesquels ils pouvaient savoir de qui il s'agissait. La manière de poser le chapeau était différente, de telle sorte qu'un étranger ne puisse pas reconnaître ce qu'un Vénitien reconnaissait. Et donc, s'instaurait une forme de supériorité des Vénitiens par rapport aux étrangers, dans la mesure où eux disposaient de cette culture du masque, les rendant aptes à reconnaître. On pourrait évoquer le voile aujourd'hui qui inquiète tellement la burqa, les autorités politiques, parce que justement on ne peut pas reconnaître l'identité. Mais il se trouve qu'à Venise, la parfaite maîtrise du voile faisait que ce n'était pas un problème que les personnes soient voilées, qu'au contraire c'était une garantie. C'est une garantie d'une part d'immunité et d'autre part de ce que les étrangers ne pouvaient pas entrer en communication de manière illicite ou non contrôlée.
On protégeait au fond les secrets d'État, ça c'est très surprenant. Voilà. Expliquez-nous ça.
C'est-à-dire que toute cérémonie qui faisait se rencontrer des Vénitiens ayant des charges politiques et des étrangers, notamment des diplomates, se faisait en masque. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est du carnaval ? De toute manière, c'est la culture du masque qui a envahi la sphère du politique au XVIIe, au XVIIIe siècle encore plus. Et l'idée, c'est que soient évités ces contacts qui auraient pu engendrer des complots, des manigances dont le souverain, ce fameux souverain collectif, n'aurait pas eu vent. Et par conséquent, le masque intervenait comme une garantie.
Ce qui est paradoxal, c'est très surprenant. Au fond, la dissimulation protège en réalité les secrets. Ça paraît étrange, mais c'est ce que vous démontrez.
Voilà, c'est ce que nous montre ce cas extraordinaire du masque.
On le voit aussi assez bien lorsque on voit l'histoire du cardinal de Bernis, qui était ambassadeur de France à Venise, qui a partagé les charmes de la fameuse MM, la religieuse, avec Casanova, si je suis bien informé.
C'est ce que Casanova raconte.
Bernis n'a rien dit.
Dans les papiers de Bernis, il n'y a rien sur cette réalité.
Protégeons l'honneur familial.
Voilà. Mais il y a en revanche une mise en scène par Casanova qui est extrêmement intéressante et piquante parce qu'elle est toute ordonnée autour de la question du regard, de la question des possibilités d'aiguiser le regard que le masque permet. On retrouve cette même culture chez Goldoni, dont les jeunes filles dans certaines de ses pièces sont extrêmement désireuses d'aller au carnaval pour pouvoir non seulement goûter au plaisir, mais pour pouvoir également exercer leur acuité visuelle. Je crois que cette idée du regard est absolument essentielle. On en retrouve le correspondant dans la peinture de l'époque.
C'est-à-dire Goldoni, c'est le grand dramaturge effectivement de cette époque dont nous parlons, du XVIIIe siècle, et il y a les peintres.
Et il y a les peintres. Parce que ces peintres du XVIIIe siècle, alors nous sommes entrés dans une phase extrêmement créative que génère le carnaval, ont mis en scène le carnaval non seulement en faisant une forme de reflet de la vie quotidienne de l'époque, mais en faisant également l'occasion d'une réflexion sur la peinture et sur ce que ça voulait dire que regarder encore aujourd'hui, quand on voit les prestiges de la photographie à Venise, l'importance qu'a le fait de mettre en image, il est intéressant de revenir à ce que pratiquait un peintre comme Gian Domenico Tiepolo, qui s'est servi du carnaval, qui a utilisé les Pulcinella, qui en a fait des Pierrot que vous évoquiez tout à l'heure, en ayant l'idée de toute une tradition picturale qu'il fallait réfléchir, qu'il fallait repenser, qu'il fallait mettre en question, au point qu'il nous montre très fréquemment dans ses fresques, dans ses tableaux de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, des personnages de dos, des personnages qui regardent ce que l'on ne voit pas nous, et qui mettent en cause ce qu'est le sens même d'un spectacle. l'objet représenté. De ce fait, on a une forme d'angoisse qui s'insinue dans ce carnaval et qui nous met tout à fait en contraste avec cette dimension célébrative des fastes de la République qui continuait pendant le même temps, encore dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, à la faveur de tous ces souverains étrangers qui venaient à Venise pour se montrer les uns aux autres, qui par les fêtes somptueuses trouvaient le moyen que l'on indiquât leur rang, leur importance. Plus la fête était somptueuse, les régates en l'honneur du fils de Catherine II, par exemple, les bals étaient des témoignages incontournables. Et bien, au même moment où ces fêtes battaient leur plein...
Mélancolie d'un déclin.
Voilà. Et cette mélancolie, elle est ressentie peut-être moins par Casanova, qui est encore finalement le chantre d'une Venise des plaisirs, que par les voyageurs eux-mêmes.
Par exemple, le président Debrosse, qui est un autre fameux voyageur français, ces voyageurs voilà. auxquels vous avez consacré des travaux tout à fait notables. Le président Debrosse, dont je vais vous faire entendre également un texte.
Je voudrais bien pouvoir vous parler savamment du carnaval. On nous presse fort ici d'y revenir passer ce temps, et l'on nous promet de nous faire voir une toute autre Venise. Mais je n'imagine pas que nous lui donnions la préférence sur nos affaires et sur nos amis. Ce carnaval commence dès le 5 octobre, et il y en a un autre petit de 15 jours à l'Ascension, de sorte que l'on peut compter ici environ 6 mois, où qui que ce soit ne va autrement qu'en masque, prêtres ou autres, même le nonce et le gardien des Capucins. Ne pensez pas que je raille, c'est l'habit d'ordonnance. Et les curés seraient, dit-on, méconnus de leurs paroissiens, l'archevêque de son clergé, s'ils n'avaient le masque à la main ou sur le nez.
C'était Paul-Émile Deibert, sociétaire de la Comédie française, qui lisait le président Debrosse le 3 décembre 1960. On a un sentiment, Gilles Bertrand, que le carnaval finit temporellement par occuper une très grande partie de l'année. Il n'est plus du tout, comme aujourd'hui, limité à un temps bref.
On peut rappeler que Debrosse est à Venise hors du temps de carnaval. Il est à Venise à l'été 1739.
Encore un qui parle de ce qu'il ne voit pas.
Absolument. Il est inscrit dans un moment où on n'a pas encore tellement d'angoisse, où on a l'idée dans toute l'Europe que Venise est un cœur de fête dont on rêve. Je pense à l'image attractive que Venise pouvait exercer sur la France de Louis XIV. Debrosse s'inscrit dans la continuité de cette apologie, de ce goût, de cette fascination pour Venise qui avait amené Louis XIV à créer un grand canal à Versailles ou à s'enthousiasmer pour les fêtes vénitiennes mises en musique par Campra au tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Et Debrosse, par conséquent, on peut le situer dans l'héritage de cette fascination qui amenait à constater que Venise était une ville où l'on se masquait pendant une longue durée dans l'année, c'est-à-dire où le temps du carnaval débordait cette période qui aujourd'hui n'est qu'une période de 10 jours, mais qui, au sens strict, était une période située entre Noël, le lendemain de Noël, le jour de la Saint-Étienne, et le Mardi Gras, c'est-à-dire une période d'un mois, un mois, un mois et demi. Pour Debrosse, comme pour ses contemporains, le carnaval était prolongé en correspondance avec la saison du théâtre, c'est-à-dire où les théâtres étaient ouverts, étaient licites, c'est-à-dire au printemps, à l'époque de la fameuse foire de l'Ascension, au mois de mai, au mois de juin, et pendant tout l'automne, jusqu'à ce que l'on entre dans l'Avent, c'est-à-dire entre septembre et le début décembre. C'est pour cela que Debrosse pense qu'il y a 6 mois de carnaval dans l'année. Mais on pourrait aller au-delà de Debrosse et oui. se poser même une question au sujet de la définition du carnaval. Parce qu'on est quand même un petit peu dérouté quand on observe que s'il y a du carnaval aussi à l'automne, ça veut dire qu'on n'est plus vraiment en carnaval.
Tout est carnaval, il n'y a plus d'exception à l'extrême
point. Voilà, et on pourrait même avancer l'idée que le carême est aussi un temps de réjouissance esthétique lorsque l'on va dans les églises, oui. à l'instar de Jean-Jacques Rousseau, ou dans les fameux hôpitaux où chantaient les jeunes filles.
Oui, Jean-Jacques Rousseau, par parenthèse, a porté le masque quand il était secrétaire d'ambassade à Venise.
Il est allé écouter ces jeunes filles dont il ne voyait pas le visage. Il les écoutait en temps de carême. On peut dire que ce temps était aussi un temps du désir, de l'attente, du plaisir.
Et alors, donc, notre sujet risque de nous échapper, Gilles Bertrand, si il s'étend jusqu'à la complétude d'une année entière.
C'est ainsi qu'il était vécu au XVIIIe siècle, beaucoup plus qu'au siècle précédent et qu'au siècle suivant. Un temps qui se dilate et qui finit par angoisser précisément parce qu'on ne sait plus où est la frontière entre le plaisir et la contrainte. Venise a vécu au bord de ce précipice, pourrait-on dire, qui l'a amené à s'autodissoudre avant même que les Français, en 1797, n'y arrivent effectivement, mais par la seule peur qu'ils y arrivent, le fantasme de Bonaparte.
À vrai dire, cet entre-là, entre le plaisir et la contrainte, Il me semble que vous nous avez montré qu'il est à peu près permanent sur la longue durée de l'histoire du carnaval. Mais effectivement, arrêtons-nous pour finir à ces derniers temps, c'est-à-dire le moment où disparaît la République sérénissime en 1797 et où on entre, notamment à l'époque de Napoléon, dans une période assez austère.
On peut dire que 1797 est un moment singulier pour Venise, puisque au moment où la République s'effondre, au mois de mai 1797, le carnaval a eu lieu. Il a été très riant, puisque c'était l'hiver précédent, mais il devient interdit. On a peur des masques, on a peur, comme sous la Révolution française, de tout ce qui peut mettre en péril l'autorité par le masque, même si elle est fraîche et nouvelle, cette autorité. On retrouvera cette peur en 1848, lors des révolutions, à Venise comme ailleurs. On la retrouve sous le fascisme, où le masque disparaît totalement des ruelles de Venise.
Et on rejoint par là, me semble-t-il, notre République contemporaine. Nous évoquions la peur de la burqa, le refus de la dissimulation complète d'une identité personnelle. Nous sommes entrés dans une République qui valorise extrêmement la transparence, et qui est exactement à l'inverse, aux antipodes de cette défense et illustration de la dissimulation des corps qu'a porté la République de Venise.
Et le début 19e, à la fois craint cette dissimulation, et en même temps, il craint les débordements populaires.
On arrive à la République bourgeoise.
On entre dans l'embourgeoisement du carnaval, qui pourrait définir un nouveau carnaval, qui est plus réduit dans sa présence dans les rues de Venise, qui est davantage tourné vers les plaisirs de la gastronomie, ce qui n'est pas nouveau complètement, mais ce qui est quand même très marqué dans le premier 19e. Et c'est un carnaval qui finit par devenir invisible au grand public. C'est un carnaval qui se réfugie dans les palais des Vénitiens, mais un certain nombre n'ont plus les moyens de les entretenir, donc ils les mettent en vente, donc ils se réfugient aussi dans les palais de cette jet set international, on pourrait dire, dont les Français déjà ont eu leur premier représentant avec la duchesse de Berry et ses enfants qui ont acheté chacun des palais dans lesquels, surtout elle, organisait des fêtes masquées. Et donc on a eu une forme de repli sur les palais qui s'est accentuée à la fin du 19e siècle.
Les élites dans les palais, le peuple en plein air.
Voilà. Alors le peuple, il se livrait à quelques mascarades, assez bon enfant. Éventuellement, les couches intermédiaires allaient au théâtre qui ponctuait une saison du carnaval. Surtout la musique, puisque on peut dire que le 19e siècle a retrouvé, bon, avec Verdi et bien d'autres, à Venise, cet engouement pour l'opéra qui avait marqué le 17e siècle, hein, création à Venise en 1637 du premier opéra. Pendant ce temps-là, les élites, qui certes vont aussi dans certains bals ou à l'opéra, elles s'organisent entre elles. Ce qui me paraît vraiment intéressant est définir finalement le profil d'un nouveau carnaval, d'un vrai nouveau carnaval, c'est que dans ces palais, les membres de cette aristocratie cosmopolite et internationale invite des artistes pour créer des costumes, pour faire des décors. On en a des exemples dans les années 1890, par exemple. Alors même que certains chantres de la Troisième République partent en guerre contre l'image d'une Venise aux mœurs dégradées au siècle précédent, au nom d'une République masculine, on voit ces nobles comme le prince de Hohenlohe, Waldenburg, qui organise en 1899 une grande fête masquée avec une forme d'intention philologique, retrouver les masques du XVIIIe siècle, mais aussi avec l'idée de convoquer des artistes, en l'occurrence c'est Mario Fortuny qui l'accompagne dans cette recherche, et tout le XXe siècle a été ponctué de ces bals masqués, je pense à ces bals à la veille de la Première Guerre mondiale. Ce n'était plus pendant le temps du carnaval, c'était en août et septembre 1913, une certaine marquise un peu extravagante, la marquise Casati, avait acheté le palais Vénière des Leoni en 1910 et qui organisa des bals masqués à la fin de l'été 1913, dont l'un s'appelait le bal Longhi, donc célébrant ce carnaval que Longhi avait mis en scène en ayant un souci de costume absolument conforme à une vérité historique, mais à l'intérieur d'un cadre un petit peu fou, avec justement la possibilité d'inscrire à côté de ce modèle d'un carnaval du XVIIIe siècle, un carnaval extrêmement contemporain qui est celui de l'extravagance, de la folie, de l'absence de limites.
On retrouve encore cela dans la fameuse fête organisée par Carlos de Bestegui le 3 septembre 1951, qui est le dernier grand feu de cet effort pour évoquer de façon mémorielle aussi ce qu'a pu être la grandeur de Venise, plus ou moins fantasmée. Je me rappelle avoir eu le récit du consul général de France de l'époque, Jean-Claude Vinclair, qui en demeurait plusieurs décennies après, encore tout ébloui.
C'était un moment, en fait, qui correspondait à une longue durée, au XXe siècle, où il y avait pratiquement dans les rues seulement quelques enfants le dimanche précédent le carême qui mettaient des masques, comme on le voit dans de nombreuses villes. Et en contraste avec cette absence désormais d'un carnaval dans les rues, Carlos de Ibaïstegui avait convoqué les plus grands artistes, le couturier Christian Dior, Salvador Dali, Emilio Terri, pour créer décors et costumes, faisant revivre la baouta, ce costume dont nous avons parlé, sur des échasses, faisant revivre les pyramides humaines qui avaient été abolies au milieu du XVIIIe siècle à cause d'un accident grave. Il les fait revivre en utilisant les pompiers de Venise déguisés en arlequins. Donc on a cette espèce de retour, de revival.
Toujours cette dialectique que nous avons vue tout au long de cette évocation entre le caractère très patriotique de cette affaire vénitienne, désir d'afficher une cohésion du groupe social, d'autre part une ouverture constante aux étrangers, désir de rester international, de rester ville-monde.
Ce désir, on le retrouve aussi dans ce que j'ai un petit peu envie d'appeler des succès d'année du carnaval. Au XXe siècle, c'est la Biennale, c'est en 1895, c'est la Mostra de cinéma en 1932.
Et la Biennale du théâtre qui existe toujours et qui nous rappelle à quel point le théâtre a été constamment présent, en offrant parfois l'impression que chacun était le spectateur des autres participants à ce carnaval dont nous parlons.
Cette idée de la ville comme décor, décor où on peut se livrer au plaisir du théâtre, de la mise en scène, et où, à cette occasion, les élites comme les personnes plus humbles peuvent se retrouver d'une façon relativement libre, de ce fait-là créative. Cette idée-là, on peut la retrouver aux sources du nouveau carnaval de 1980. Il y a eu une forme de maintien en sourdine du carnaval au 19e et dans la première moitié du 20e siècle, dans ses palais privés, mais aussi en cultivant une mémoire du carnaval d'autrefois, celui du 18e siècle en particulier. On a vu également converger avec ces deux phénomènes de créativité d'une part et de mémoire d'autre part, on a vu converger une troisième idée qui a redonner naissance au carnaval en 1980, qui est celle du culte de l'instant, du culte de l'éphémère, de ce qui se voit, de ce qui frappe l'imagination. De cette manière-là, on peut penser à l'impact de la fête de l'Unita en 1976, à l'occasion de laquelle se répandaient dans différentes places des éléments de fête, au même moment où le Casanova de Fellini aussi avait contribué à mettre à l'honneur la Venise comme décor. Ben, on a vu en 1980 Maurizio Scaparro lancer le nouveau carnaval avec cette idée du théâtre fait par tout le monde dans des espaces multiples de la ville.
Et bien c'est ce carnaval dont Jean-Claude Brialy, comédien lui-même, rend compte dans cette interview donnée à Interactualité le 18 février 1985.
C'est une ville qu'on dit qui meurt peu à peu depuis 50 ans. J'entends parler de l'engloutissement de Venise et je crois que c'est une des villes où on s'amuse le plus, où les gens les plus simples, bien entendu les gens qui ont des palais, qui ont des moyens, font des dîners, des bals, mais dans la rue, c'était extraordinaire. Même ceux qui n'ont rien ont mis un nœud dans les cheveux de couleur pour symboliser leur participation à cette fête incroyable. Même des gens très âgés qui sont habillés en doge, alors qu'ils n'arrivent pas à trouver les marches des escaliers parce que leur masque leur tombe sur le nez. Des femmes qui sont surchargées de couronnes ou de plumes ou de bijoux et qui n'arrivent pas à avancer ni reculer. C'est assez réconfortant pour un acteur de penser que tout le monde a envie d'être acteur. Quand on sait que partout dans les maisons, qu'il y a des gens qui ont toute l'année attendu ce jour parce qu'ils ont tricoté, cousu un costume pour être le plus beau, la plus belle, sur la place Saint-Marc, on ne peut pas ni avancer ni reculer, c'est quand même grand la place Saint-Marc. Tout le monde est habillé, déguisé et s'amuse jusqu'à les 3h, 4h du matin par un froid sibérien. Je trouve que c'est réconfortant.
Il y a eu vraiment une sorte d'enthousiasme renouvelé dans ce festival qui a été recréé à partir de 1980, Gilles Bertrand.
Cet enthousiasme, il a été partagé par les Vénitiens et les étrangers l'ont senti. Il avait pour fondement, je pense, une forme de spontanéité, c'est-à-dire l'idée d'une créativité qui, je crois, est au cœur de la culture vénitienne. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de répéter la tradition, mais il s'agit de faire du neuf. Le carnaval du début, c'était cela. Et c'était depuis lors un petit peu usé dans une forme de consommation touristique et je trouve extrêmement rafraîchissant d'entendre Jean-Claude Brialy qui invite les acteurs d'aujourd'hui, c'est-à-dire chacun de ceux qui vont au carnaval, mais aussi ce consortium qui organise l'économie de la ville, reprendre peut-être la mesure des potentialités extraordinaires que le carnaval continue d'avoir.
Bel appel que nous enregistrons, Gilles Bertrand. Votre livre s'appelle « Histoire du carnaval de Venise ». Il est paru chez Pygmalion en 2013, tout récemment. Vous trouverez évidemment d'autres ouvrages sur notre site, comme vous le savez. Et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission pendant longtemps, pendant très longtemps. Samedi prochain, j'accueillerai Daniel Roche, grand spécialiste du XVIIIe siècle, pour parler de l'encyclopédie. Nous nous interrogerons sur les ressemblances et les différences avec tout ce que l'on peut aujourd'hui apprendre, recueillir, éventuellement en désordre, sur Internet. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, réalisée par Patrick Molinier, une émission préparée par Nathalie Lempereur et Jeanne Guéroux, avec à la prise de son Tristan Gratalon, à la discothèque Romain Couturier et Gwen Michel pour les archivinas. Et dans quelques instants, je vais passer le micro à Dominique Rousset et à ses invités pour l'économie en question.